Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un parcours hors norme, celui de Latifa Benari, qui a été victime pendant plusieurs années d'un pédophile quand elle était enfant au Maroc, et qui est depuis 20 ans à la tête d'une association, l'Ange Bleu, à l'écoute des pédophiles. Comment s'est fait ce chemin absolument unique? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui en m'appuyant sur son livre paru en 2002 aux éditions AD2, La fin d'un silence. Et elle est là, bien sûr, pour débriefer ce récit. Bonjour Latifa.
Bonjour.
Voici donc votre histoire, incroyable. La réalisation est de Céline Lebras.
14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je m'appelle Latifa Benari. Je suis né au Maroc en 1951, la sixième de 8 enfants. Ma famille vient d'Algérie et donc je suis né française. Mon père était tailleur comme ses ancêtres. Tailleur sur mesure, masculin, féminin, civil et militaire. C'était écrit sur la devanture de son atelier qui était collé à notre maison. Mon père était un homme rigoureux et autoritaire. Et ma mère avec 6 enfants, était dévorée par les tâches ménagères et l'éducation de mes frères et sœurs. Ça l'a rendue malade. Je l'ai beaucoup vue souffrante et alitée. Et moi, entre ce père qui travaillait et cette mère dépassée, je me suis trouvé toute petite, disons, en état de carence affective. Je n'avais pas la quantité de tendresse qu'il me fallait. Et du coup, cette tendresse, je l'ai trouvée chez un employé de mon père. Je ne vous dirai pas son nom, juste l'initiale de son prénom, M. Lui, il était tendre et très gentil avec ma mère. Reposez-vous, je vais m'occuper des enfants. Mes parents disaient qu'il était très dévoué. Et du coup, mon père acceptait qu'il arrive en retard à l'atelier, tant qu'il s'occupait de nous. J'ai 6 ans. Je viens d'entrer à l'école. J'ai de beaux vêtements, un joli cartable, des livres, des cahiers tout neufs. Mon père attache une grande importance aux études. Il faut bien travailler à l'école, hein, Latifa. C'est le plus important. Il l'a bien compris. M. Alors il me chouchoute. J'aime bien comme il s'occupe de mes devoirs. Il me met sur ses genoux. Il me caresse la tête. J'aime bien. Il n'y a que lui qui me donne autant d'affection. Je crois que je suis sa préférée. Ça me flatte. Et en même temps, ça me dérange un peu. Un jour, il me met sur ses genoux et je sens quelque chose de dur entre mes fesses. Je veux me dégager.
Reste. Faut pas avoir peur de moi.
Juste après, il se marie. Et le lendemain, il est de retour au travail. Tout le monde est un peu surpris. Et ce jour-là, pour la première fois, il vient me chercher à l'école, comme un parent attend sa fille. Et là, quand je le vois, mon sang s'arrête de couler dans mes veines. J'effacerai jamais ça de ma mémoire. Il prend ma main. Je tremble. Il a dû le sentir. On marche.
Tu sais, Latifa, je t'aime beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup.
Mais il faut pas dire aux autres que je t'aime. Si on découvre notre amour, c'est toi qui vas être puni. Ce soir-là, je passe ma première nuit blanche. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qui va m'arriver? D'un coup, je quitte le monde des enfants et je me retrouve seul. Seul. À partir de là, il vient me chercher régulièrement à la sortie de l'école. La nuit, je me recroqueville comme un fœtus. Je voudrais regagner le ventre de ma mère. Un peu plus tard, ma sœur se marie. Chez nous, ça dure 3 ou 4 jours. Il est invité. J'essaye de l'éviter, et lui, il en profite. Il profite du bruit, de la musique et des chants. Il m'entraîne dans un coin reculé. et il cherche à m'embrasser. Je me débats. Il me force. Il me touche. Il me tient les bras dans le dos avec une main. Et avec l'autre, il me caresse. Il me dit de me calmer. Je peux pas. Alors il finit par me lâcher. Et quand je regagne la fête, les yeux pleins de larmes, il ne voit rien. Une myopie collective. Après le mariage de ma sœur, l'épouse de M propose de rester pour aider ma mère à ranger, à nettoyer. Et du coup, il reste dormir. Je me réveille en pleine nuit. Il a plaqué une main sur ma bouche et une autre sur mes cuisses. Tu es encore trop petite pour comprendre que je te veux pas de mal. Tout ce qu'on fera est normal. Toutes les petites filles acceptent de le faire, sans refuser. Je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce fut la plus sombre de toutes mes nuits. Le lendemain, avant de partir à l'école, j'essaye de ne croiser personne, pour ne pas qu'on voie les traces sur mon corps. Et du coup, on me dit « Tu nous boudes, Latifa !» Prends pour qui ? T'es devenu fier ? » Quelques jours plus tard, je rentre de l'école. Et qui je trouve autour de la table garnie de gâteaux ? M et sa femme. Et quand il me voit, il m'embrasse comme un père. Ça me hérisse le poil. Et sa femme me propose de s'asseoir à côté de lui. Quand ils s'en vont, je demande à ma mère pourquoi ils étaient là.
« Ils attendent un bébé. Ils sont venus nous le dire. Je suis bien contente pour eux. »
Un bébé? Avec un enfant, il comprendra. Il arrêtera. Mais quelques jours plus tard, dans le couloir de l'atelier...
Latifa, malgré la naissance du bébé, tu garderas ta place dans mon cœur. Je t'aimerai toujours.
Un soir, il vient me chercher après l'école avec son air habituel.
J'ai averti tes parents que tu rentreras pas à l'heure habituelle et que je t'emmenais rendre une visite à une amie. C'est pour t'aider dans tes devoirs. Tes notes ont baissé.
On passe dans des rues très étroites. On arrive devant une porte. Il sort des clés de sa poche. Il ouvre la porte. Il me pousse à l'intérieur. Il y a un lit, une place, une table et une chaise. Et sur la table, il y a des bonbons. Et des gâteaux.
Tu vois que je suis pas méchant. Tout ce que je veux, c'est te faire plaisir.
Il passe la main sous ma jupe. Il me force à m'allonger sur le lit. Il me baisse la culotte. Je refuse. Je serre les cuisses. Il ouvre sa braguette. C'est la première fois que je vois un sexe d'homme. Et son excitation... Ça me terrifie. Mais je me débats tellement qu'il n'y parvient pas. Il se relève. Il commence à sécher mes larmes. On sort.
Si tu révèles notre relation, ton père va me tuer. Et toi, tu seras responsable des conséquences. Moi, j'ai rien à perdre. Mais ton père sera jeté en prison. Et ta mère se retrouvera à la rue avec tes frères et sœurs. Tiens, comme cette mendiante-là, tu la vois avec ses enfants. Eh ben pareil.
À partir de ce moment-là, cette image de mendiante me hante. Je ne dis rien. Il m'a ramené souvent dans cette chambre. Je me suis toujours débattu. Il a dû souvent se contenter de se masturber. Et parfois il est parvenu à ses fins. J'ai 9 ans maintenant. Un jour, mon père nous propose à mes frères et moi de l'accompagner à la chasse. La chasse à la gazelle. Moi, normalement, j'aime pas trop ça. Mais je dis oui, à la surprise générale, pour fuir M. On se lève à 5h du matin. Et qui est là? M.
Mais finalement, je veux pas y aller. Je préfère rester là.
Et vlan la gifle de mon père. Ce souvenir revient souvent me hanter. Mais comment ont-ils pu être autant manipulés par M, Autant que moi. N'empêche que je ne suis pas allé à la chasse. Et lui, oui. Il n'a pas pu faire marche arrière. C'est ma première victoire. On a une passion commune dans la famille. Nager. La piscine. C'est mon père qui nous a transmis ça. Alors l'été, on y va avec mes frères. J'aime bien être avec mes frères. Quatre garçons. Je me sens en sécurité. Avec eux, je ne risque rien, j'en suis sûr. En rentrant de la piscine, je les entends, mes frères. Parler des filles. Sans trop faire attention à moi, je suis si jeune, je ne comprends pas. Combien de fois j'ai rêvé de leur dire ce que, moi, je savais sur le sujet. Combien de fois. Je souffle pendant les vacances. Je reviens dans le monde des enfants. Mais après les vacances, ça recommence. Avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, mon père commence à parler de rentrer au pays. J'ai 11 ans. Et M ne peut plus venir me chercher à l'école. 11 ans, ça attirerait les soupçons. Et si j'arrêtais de dire oui? Si je résistais? J'ai grandi. J'ai mûri. Vers mes 13 ans et demi, la maison est vendue. L'atelier aussi. Ça y est. On va bientôt partir en Algérie. Un jour, mon père me demande.
Dis, Latifa, tu veux bien porter un verre d'eau fraîche à l'atelier?
Et là, je demande à mon petit frère Najib de m'accompagner. De tous mes frères, c'est celui dont je me sens le plus proche. Avec lui, il n'osera pas. Je lui tends son verre d'eau et je lis la rage dans ses yeux. Je viens de déjouer sa manipulation. Face à lui, je n'ai plus peur. Et maintenant, je refuse de le suivre après l'école, quand il m'attend devant la maison. Je crois qu'il a compris que je ne le suivrai plus jamais. Dans 2 mois, on part pour l'Algérie. Je revis. C'est une métamorphose. Je me suis remise à avoir des amis. Je commence à m'intéresser au contenu des cours au collège. Tout le monde a l'impression d'avoir affaire à une autre Latifa. Et là, j'ai mes premières règles. Un choc, hein? On ne m'avait pas préparé. Il me demandait, M, depuis environ mes 10 ans, « Tu les as eus? Tu les as eus ?» Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, « Est-ce que c'est la conséquence de mes viols? Est-ce que c'est une blessure qui s'ouvre et qui se met à saigner ?» La première fois, j'ai mis des feuilles de papier. « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter de couler ?» Une copine a fini par m'expliquer. Et puis, ma mère. Après mon départ du Maroc, j'ai tourné une page. Ce fut comme une libération. On habite à Alger, un grand appartement. 2 ans passent. Je vais bientôt avoir 16 ans. Et cette année-là, nous retournons en vacances au Maroc chez ma sœur aînée qui est restée là-bas. Et qui est restée en contact? Avec M. Je ne peux pas rester chez elle. Je ne peux pas rester près de lui. Et donc je m'installe chez une de ses amies. Une amie qui a une petite fille de 7 ans, Sonia. Elle est étrange, Sonia. On dirait moi au même âge. La même réserve. La même tendance à s'isoler. La même tristesse. Or cette famille entretient aussi des liens cordiaux avec M. Est-ce que elle aussi? J'aurais tellement voulu qu'on fasse attention à moi, à cet âge. J'aurais tellement voulu qu'on cherche la raison de mon chagrin. Alors je vais lui parler. Bonjour Sonia. T'as pas l'air très bien en ce moment. Y a quelque chose qui te tracasse? Elle me raconte tout. Elle vit très exactement la même chose que moi. La même chose! La patte de M, j'en suis sûr. Tu veux bien me dire qui t'a fait ça? Non, je peux pas. Alors je lui dis, Je lui dis ce qui m'est arrivé au même âge. Je lui dis ce que M m'a fait.
C'est lui, n'est-ce pas ?
Oui. C'est lui.
Le jour même, je le dis à sa mère, elle se met à hurler, hurler ! Une vraie crise d'hystérie. Et je lui dis que moi aussi, il m'a fait la même chose quand j'étais petite. Que ça n'est pas un accident. Elle ne dit rien à son mari, la peur qu'il le tue. Mais le jour même, elle va voir M. Il nie, bien sûr.
Raconte n'importe quoi, ta fille.
Et quand elle rentre à la maison, la mère de Sonia, sans m'en parler, appelle ma mère, ma propre mère, pour tout lui dire. Et donc c'est comme ça que maman a découvert mon histoire. Je ne veux pas que ma mère culpabilise.
Je ne pouvais pas parler, maman. Tu ne pouvais pas savoir.
Ma mère, ce jour-là, s'est montrée plus tendre, plus attentive, plus maternelle que jamais. Le lendemain, on est allé voir M, toutes les trois. Ma mère, la maman de Sonia et moi. Il est resté silencieux. Il a nié de temps en temps. Et ensuite, on est allé voir sa femme, sans le lui dire. Et on a convenu tous ensemble de garder le silence. Au Maroc, les gens font encore justice eux-mêmes. On voulait protéger les enfants de M d'une vengeance sanglante. À 16 ans, j'entre à l'école normale pour devenir institutrice. Un jour, une amie de ma mère vient à la maison avec sa fille, Warda, qui doit avoir 12 ans. Et je les entends parler, les deux femmes, ma mère et la sienne, dans le salon.
Oh, dis donc, Warda. Tu sais, Warda, en ce moment, il a des notes en baisse, hein. Moi, je crois que c'est son père. Il est dur avec elle.
Warda, à ce moment-là, est sur le balcon. Je vais la voir.
Alors, Warda, comment ça va ?
Et après, je fonctionne à l'instinct.
Moi aussi, tu sais, j'avais un père très dur, très autoritaire. Ça n'a pas été facile tous les jours. C'est avec ton père aussi que t'as un problème ?
Non.
Ce qui était une manière de confirmer qu'elle avait un problème. Alors je lui ai parlé de moi, de ce que j'avais vécu. Elle m'a écouté avec beaucoup d'intensité.
Et est-ce que c'est comme ça pour toi aussi, en ce moment ?
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai découvert que M n'était pas le seul de son espèce. Elle m'a raconté que c'était son frère aîné, 17 ans, et son oncle.
Mais surtout, tu dis rien à personne. Surtout pas à ma mère.
Plus tard, je lui ai conseillé d'aller affronter et son frère et son oncle. De leur dire qu'elle m'en avait parlé. Elle l'a fait. Ils ont eu peur. Ils ont arrêté. Grâce à Warda, une nouvelle voie s'ouvre pour moi. Venir en aide à toutes les victimes d'agressions sexuelles dont je croiserai le chemin. Pendant les 8 années que j'ai passées en Algérie et pendant tous mes séjours au Maroc, j'ai rencontré comme ça près de 200 victimes, beaucoup de filles et quelques garçons. Vers l'âge de 20 ans, à la plage, je rencontre une adolescente de 16 ans. Elle se tient à l'écart et je remarque tout de suite qu'elle jette aux hommes des regards pleins de dégoût, de peur, de haine. Elle va se baigner. Je la rejoins. Je nage bien. Elle me demande comment j'ai appris. Et là, un jeune homme d'une 20aine d'années vient nous draguer. Elle devient tout de suite agressive. Et dès qu'il a tourné le dos,
ce sont tous des salauds. Je suis sûr que c'est un violeur.
Oui, tu as raison. Moi-même, j'ai été victime. Il faut pas généraliser.
Et je finis par lui dire de but en blanc, dans l'eau, à la plage.
C'est un proche, toi aussi? Ça s'est passé un peu comme ça?
C'est un voisin. Un ami de son frère aîné, Samir.
Je te propose quelque chose.
On va le voir, toutes les deux. Et moi, je sers de médiatrice. T'es d'accord? En vérité, je voulais comprendre comment des hommes peuvent avoir une attirance pour les enfants. J'y suis allé seul, finalement. Samir était assis sur le muret devant chez lui.
Bonjour Samir. Je voudrais qu'on parle. Et d'abord, je veux vous rassurer, tout ce dont on va parler restera entre nous. J'en parlerai à personne. Venez, on va marcher.
Et je lui ai exposé ce que m'avait révélé la sœur de son copain. Il a pris sa tête dans les mains. Et il s'est mis à pleurer. Et je me suis mis à pleurer aussi.
Écoute, on va en rester là pour aujourd'hui. Si tu veux, on se reparle dans la semaine.
J'avais compati. J'avais compati au sort de celui qui était censé être un ennemi. Ça m'a beaucoup troublé, beaucoup. Je l'ai revu. Il m'a dit que je l'avais sauvé du suicide. Et il est allé demander pardon à Warda. Cet épisode a eu une portée déterminante pour la suite de mon parcours. En 1976, à l'âge de 25 ans, je me suis installé en France. Et je pensais qu'en France, on s'intéressait à la question des agressions sexuelles plus qu'en Algérie. Eh ben pas du tout. J'ai donc poursuivi mon chemin toute seule, dans l'ombre. Entre-temps, je me suis marié avec Ali. Ali, c'est un homme qui met la tendresse devant le sexe. Je ne supporte pas les hommes qui m'abordent avec une petite érection, vous voyez? Nous avons eu deux enfants, deux filles. Et le temps a passé. Un jour, dans l'école de ma dernière fille, les parents se sont mis à soupçonner l'instituteur. Il n'avait violé personne, hein, mais il était clair qu'il avait des attirances. On l'a écarté des enfants. Et j'y ai participé, en première ligne. Et après, j'ai voulu savoir ce qu'il était devenu, pour l'aider, si nécessaire. Et là, j'ai découvert qu'il avait été lâché par tout le monde, tout son entourage, ses collègues, ses amis, une peine de mort sociale. Il ne parlait plus qu'à son père et à son frère. Il n'avait plus de travail. Il était au RMI. Et bien sûr, aucun suivi. Si bien qu'il était devenu sans doute plus dangereux qu'avant. Dans l'indifférence d'un système trop content de s'être débarrassé d'un enseignant encombrant. Alors j'ai décidé de me lancer. À titre bénévole. Et j'ai créé une association. L'Ange Bleu. Mon idée est d'entrer en contact avec les pédophiles avant le passage à l'acte. Je suis passé à la radio, sur Europe 1. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages. Votre intervention de ce matin sur Europe 1 m'a bouleversé. Et elle a constitué l'électrochoc dont j'avais besoin. Je vis dans la peur. Pas tant des pulsions que je ne ressens pas au point de commettre un acte irréparable, mais d'être découvert et de voir s'écrouler le monde qui m'entoure, brisant ma famille, ma femme et mes enfants que j'aime plus que tout. J'attends de vous une aide, une écoute discrète et des solutions. Un autre m'a écrit de Suisse. Aidez-moi à protéger les enfants qui m'entourent. Ainsi a commencé la grande aventure de ma vie. Animer une structure, l'Ange Bleu, qui permet aux jeunes pédophiles de se confier et d'exprimer en toute liberté et en toute sécurité tout ce qu'ils portent en eux, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà donc pour cette histoire que j'ai tirée, Latifa Benhari, des 70 premières pages de votre livre « La fin d'un silence » paru en 2002, il y a bien longtemps, aux éditions AD2. Alors avant de revenir bien sûr sur ce parcours incroyable, parlons de l'ange bleu 20 ans plus tard, parce que c'était il y a plus de 20 ans tout ça. Vous continuez d'accueillir aujourd'hui et d'écouter des pédophiles.
Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est malheureux à dire, l'association a été créée et fondée il y a 21 ans, en 98, et elle continue à œuvrer, à être la seule. Donc je vis avec l'écouteur, donc je tiens la permanence, une hotline.
C'est-à-dire que si quelqu'un vous appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous répondez, un homme en détresse.
Il y a des appels en absence la nuit, parce que je ne peux pas laisser le téléphone ouvert au-delà de minuit, parfois 1h du matin, mais je n'arrive pas à fermer mon téléphone parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un drame, mais surtout des suicides. Parce que la majorité qui m'appelle sont en détresse. Donc on ne peut pas vraiment parler de dangerosité.
Vous m'avez fait passer quelques messages reçus ces dernières heures. Bonjour Latifa, je me présente, je m'appelle Zoé, j'ai 19 ans. Je vous contacte car j'ai l'impression d'être attiré par les enfants. Je ne sais pas si je suis réellement pédophile, mais j'en suis quasiment persuadé. Deuxième message. Chère madame, je me permets de vous envoyer ce mail car je suis complètement perdu. J'ai depuis quelques années des fantasmes honteux qui me gâchent la vie. Je n'ai que 20 ans et cela dure depuis plusieurs années.
C'était cette nuit.
Combien de messages par jour ?
Alors, ça dépend. Comme en ce moment, l'actualité parle d'un cas extrême, beaucoup se sentent concernés, puis se fragilisent davantage et cherchent de l'aide. Heureusement que le site de l'Ange Bleu existe et les éclaire sur la manière et ma méthode.
Alors, c'est quoi votre méthode ? Qu'est-ce que vous leur proposez ?
Mais vous savez, c'est la méthode du cœur. C'est tout, c'est une démarche humaniste, c'est tout, c'est au cas par cas. J'ai toujours comparé ma méthode à l'activité de mon père. C'était un tailleur sur mesure, il confectionnait des costumes...
Hommes, femmes, enfants, civils et militaires.
Oui, gros, fins, grands, tout, voilà. Donc ça dépend des profils, dépend des besoins.
Écoutez, oui. Et ensuite, pour avancer, pour désamorcer la bombe, c'est quoi votre méthode ?
Ça dépend des cas. J'évalue un petit peu leur problématique. Je ne me substitue jamais au médecin. On revient toujours à la pédophilie, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de pédophilie. La pédophilie désigne une attirance inclinée vers les enfants prépubères qui n'a pas été choisie par la personne concernée. En revanche, beaucoup choisissent l'abstinence.
La plupart des gens qui vous contactent sont des abstinents.
La plupart, oui. Ou bien des ex-délinquants sexuels qui sont devenus abstinents, qui ne veulent plus. Alors, ou on ne veut pas passer à l'acte, c'est-à-dire un travail en amont, ou on ne veut plus passer à l'acte. C'est ceux-là qui prennent contact avec moi par téléphone ou par Internet.
Ceux qui sont passés à l'acte, vous les dénoncez ?
Alors, j'ai toujours répondu à cette question à tous les niveaux. Je ne dénonce pas parce que je ne me substitue pas, moi, à la victime. Pourquoi ? Parce que sur mon parcours en Algérie, au Maroc, en France, j'ai constaté que beaucoup de victimes veulent ou voulaient juste comprendre ce qui s'est passé. Et parfois, elles veulent même rencontrer l'auteur. Donc, je joue la médiatrice.
Vous faites
ça ? Et donc, c'est pas à moi. Oui, bien sûr, je le fais souvent.
Vous faites, je crois, le samedi, c'est ça ? Le samedi, un déjeuner ?
Non, c'est l'après-midi.
L'après-midi,
oui,
un goûter ?
C'est un thé.
Un thé chez vous ?
Avec des pâtisseries, oui, des
boissons. Où il y a des victimes et des pédophiles.
Indirect, c'est pas les auteurs directs.
Ce sont des gens qui ont commis, mais pas à l'encontre de ceux qui sont là autour de la table.
Tout à fait.
Et ils parlent.
C'est pour nouer un dialogue et poser des questions qu'on ne peut pas poser à son auteur. Et aussi, pour ceux qui sont passés à l'acte, comprendre la souffrance d'une victime. Et pour ceux qui ne sont jamais passés à l'acte, comprendre les circonstances.
Alors quelque chose que je n'ai pas raconté, Latifa, mais qui figure dans votre livre. Il y a quelques années, vous êtes retourné voir M, au Maroc. C'était un vieil homme. Il avait 70 ans, c'est ça ?
C'était au moment où je créais l'association. Et j'avais à mon actif les révélations, les aveux, le témoignage de souffrance de centaines d'agresseurs via les victimes. Parce que je n'allais pas moi-même vers les auteurs, c'est les victimes qui m'orientaient.
Qui vous emmenaient à l'auteur.
Voilà.
Donc vous pensez savoir leur parler ?
Oui, voilà, mais je voulais avoir le profil. Je voulais connaître la position de mon agresseur par rapport à ce qu'il m'a fait, mais ce n'était pas du tout de la compassion. C'était vraiment pour exprimer ce que je ressentais quand j'étais petite.
Qu'est-ce qu'il a dit fille. Qu'est-ce qu'il a consenti?
Alors, il a essayé un petit peu de se victimiser. Il a répété ce mot, mais je t'aimais.
Oui.
Et ça, c'était insupportable pour moi. Parce que quand on aime un enfant, on n'abuse pas de lui. Ni d'elle. Donc, ce n'était pas pour moi une excuse, ni un argument pour justifier ce qu'il m'a fait pendant des années.
Il a été victime, lui aussi?
C'est ce qu'il a essayé de m'expliquer.
Vous le croyez?
Je le crois. Pour ça, je le crois. Par contre, ça n'excuse pas ce qu'il a commis.
Il n'y aura pas de pardon pour M.
Oui. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que certains des gens qui viennent autour de ce goûter pardonnent. Vous le racontez, certains font cette démarche. Vous ne la ferez pas.
Je ne la fais pas parce que le pardon, ça se mérite. Et lui, il a eu l'occasion plusieurs fois, en me croisant, pour demander justement pardon, que ce n'est pas à moi de lui offrir, au moins exprimer
des regrets. Voilà. Il ne l'a pas fait.
Jamais.
Il est mort depuis?
Il est mort après notre rencontre, trois semaines après.
Il s'est senti mal.
Oui. Je n'ai pas eu de peine, ça je l'avoue. Malgré tout ce que je ressens comme humanité pour d'autres, mais pour lui, parce qu'il a eu l'occasion. Et puis, j'ai toujours ces flashs d'agression et de manipulation. Et ce que j'ai vécu était toujours devant mes yeux.
Justement, le trauma de votre histoire, ce sac à dos, comme on dit, on a l'impression qu'un jour, vous l'avez posé quelque part. Vous l'avez posé quelque part ou vous le portez, ce trauma?
Alors, c'est ce que je dis tout le temps, c'est comme un fardeau. Je l'ai déposé il y a très longtemps. Je l'ai déposé le jour où ma mère a appris.
Elle a eu raison, votre copine, alors, d'aller lui dire.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que j'avais très peur.
Vous ne l'auriez pas dit vous-même? Ou il aurait fallu beaucoup plus de temps?
Non, je n'aurais pas eu le courage. Parce qu'elle aurait beaucoup... je pensais qu'elle aurait beaucoup souffert. Mais en fait, je me suis trompée. Elle m'a offert cette affection malgré mon âge et malgré toutes ces années. C'est vrai qu'elle a toujours évoqué les regrets d'avoir été myope et aveugle.
Donc, on peut vivre avec ce fardeau. Parce que les gens ne s'en aperçoivent pas là parce que vous êtes émue et que... Mais vous êtes une femme éminemment rigolote, plutôt pimpante, plutôt enjouée.
Je suis émue parce que vous avez raconté mon histoire. C'était un flashback dans mon enfance.
Ouais.
C'est vrai que c'est un fardeau que j'ai déposé. Et aujourd'hui, juste, vous avez ouvert une petite fenêtre.
Mais vous avez réussi jusqu'ici à vivre heureuse néanmoins.
Tout à fait. Tout à fait. Moi, le jour où j'ai déposé le fardeau, c'est vrai que être à l'écoute des victimes, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté parce que je me suis dit, je suis enfin et au moins utile dans ce monde pour que d'autres enfants ne subissent pas ce que j'ai subi.
Ça, c'est le passage, évidemment, de votre histoire qu'on a un peu de mal forcément à comprendre. C'est comment vous êtes passé de l'écoute des victimes à la compassion. Pour les agresseurs, qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle est votre clé?
Alors, il y a des profils d'agresseurs qui ressemblent, qui sont similaires à mon agresseur.
Oui.
Ce n'est pas du tout cette catégorie de population à qui je pourrais m'adresser, de qui on peut attendre...
Ce ne sont pas eux que vous aidez, quoi, pas ce genre
non,
de mec-là.
Non, pas du tout.
Ce sont des gens qui sont, au contraire, dans la souffrance de la retenue de leur pulsion.
Tout à fait. Et c'est à travers les victimes que j'allais à la rencontre de ces gens-là. C'est parce que je savais très bien comment je pouvais les aborder et ils étaient accessibles. Et je ressentais, et puis j'entendais leurs souffrances et leurs regrets. Et je transmettais souvent. Et c'est là où j'avais commencé, à l'époque déjà, la médiation entre les uns et les autres, et parfois même avec les familles. Et j'ai découvert cette souffrance et j'ai surtout découvert cette écoute bienveillante qui évitait la récidive.
Je me dois de vous poser une question qui est assez délicate, mais si vous n'aviez pas été victime, Latifa, est-ce que les gens auraient accepté que vous vous occupiez de pédophiles. Autrement dit, est-ce que vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez été victime pour qu'on accepte que vous vous occupiez de gens qui sont considérés dans la société actuelle comme les pires criminels ?
Mais c'est le cas. C'est un paradoxe qui dérange beaucoup de gens. Comment une victime d'agression sexuelle et d'abus puisse écouter et apporter une aide et un soutien aux agresseurs ou aux pédophiles.
Mais c'est parce que vous avez été victime qu'on ne peut pas vous soupçonner.
Tout à fait.
Qu'on ne peut pas trouver cela malsain. Au fond, vous n'auriez pas été victime, vous ne pourriez pas faire ça. Quelqu'un qui n'a pas été victime ne peut pas créer aujourd'hui une association de soutien aux pédophiles.
Je ne sais pas, mais j'espère que ça va se passer.
On voudrait que ça existe,
oui,
mais ce n'est pas le cas.
Moi, j'avais très peur, j'avoue que j'avais très peur des victimes d'abus sexuels. Et bizarrement et paradoxalement, le plus grand soutien émane des victimes et des familles de victimes. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappée. Radio-Canada m'avait interviewée une fois et j'ai reçu un appel qui m'a bouleversée. C'est la maman d'une victime qui a été assassinée. Vous connaissez le sujet. Et on n'avait pas du tout retrouvé l'assassin. Et elle venait juste de découvrir l'assassin après 16 ans. Sa fille avait 9 ans. Et j'avais vraiment peur de sa réaction. Et elle m'a dit, je voudrais juste vous féliciter. Je voudrais vous remercier pour ce que vous faites. Parce que peut-être, je me dis que si vous aviez rencontré ou croisé l'assassin de ma fille,
vous l'auriez désamorcé.
Ma fille serait vivante aujourd'hui.
Est-ce que vous ressentez parfois de la défiance chez les gens ? Parce que là, vous nous racontez de belles histoires de gens qui vous trouvent formidables. Mais il doit y avoir des gens qui vous trouvent insupportables, pas à votre place, auprès de ces hommes-là.
Alors, bizarrement, je suis souvent soutenue par tout le monde, sauf au début de la création de l'Ange Bleu, par des associations. Qui m'ont attribué une complaisance. Et j'ai compris, beaucoup plus tard, qu'ils ne comprenaient pas comment je fonctionnais et pourquoi j'aidais cette population. Et ils ont compris par la suite, parce que chaque fois, j'étais obligée d'expliquer que le but de ma démarche, le but de mon action, de cette particularité, c'est d'éviter d'autres victimes potentielles.
Aujourd'hui, la pédophilie est considérée comme le pire des crimes.
Alors la pédophilie n'est pas un crime, c'est une attirance, une orientation sexuelle envers les enfants.
Oui, tant qu'on n'est pas passé à l'acte. Ouais. Mais même les mauvaises pensées sont considérées comme des crimes.
Hein. Oui. Il faut savoir que beaucoup d'hétérosexuels, homosexuels, agressent les enfants sans avoir d'attirance pédophilique.
Ah.
Oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il y a des hétérosexuels qui dérapent avec des enfants ou avec des adolescents sans avoir une attirance figée.
Ouais. Qui ne sont pas pédophiles au fond.
Non, qui ne sont pas pédophiles.
Donc ils dérapent.
Tout à fait.
Par une
ils
sorte
ont
de
une
jeu.
Excitation ouais. Avec un contact tactile avec une petite fille ou avec un petit garçon. Et ils vont plus loin qu'une caresse ou ils n'ont pas cette présence d'esprit de se retirer ou de prendre des distances. Ils vont plus loin.
C'est un manque de morale, d'éducation morale.
Tout à fait. Tout à fait, mais ce n'est pas du tout lié aux attirances pédophiliques.
Comment est-ce que vous gérez la vidéo ? Parce que tous ces abstinents dont vous parlez regardent sans doute des vidéos sur Internet.
Alors, bizarrement, beaucoup ne sont pas pédophiles. Ils découvrent d'une façon imprévisible. Mmh. Il y a des intrusions de scènes, de sites pédopornographiques. Mmh. Et pour beaucoup, c'est la curiosité malsaine qui capte leur regard, leur curiosité. Ils reviennent jusqu'à ce que ça devienne une dépendance. Mais pour moi, ils ne sont pas pédophiles dans la mesure où je leur pose la question si les enfants dans la vie réelle ont un impact sur eux.
Ils répondent non.
Oui.
C'est plus compliqué qu'on ne dit.
Oui,
alors.
C'est comme ceux qui sont passionnés par les films de crime, qui ne sont pas criminels dans la vie réelle.
Si vous disparaissez, Latifa, et vous disparaîtrez un jour,
tout à fait.
Qui prend le relais ?
Justement, c'est la question qui se pose aujourd'hui, puisque j'ai 67 ans. Je suis ravie d'être reconnue par le CIFAS, le comité scientifique, qui a l'intention justement de mettre des moyens pour former des écoutants et développer cette action.
Vous êtes en train de dire que quelqu'un va prendre l'oreillette là et puis va répondre à votre place un jour ?
Je ne sais pas si l'artisanat, parce que je suis artisane dans cette démarche, va pouvoir se
professionnaliser,
pérenniser, mais c'est ce que je souhaite, c'est ce que je fais. D'ailleurs, mon livre a été traduit en anglais et je dois l'éditer aux États-Unis puisque ma fille habite là-bas. Elle a créé Blue Angel là-bas pour m'encourager. Et aujourd'hui, je compte beaucoup sur ce gouvernement, particulièrement parce qu'un des députés est venu assister au groupe de parole. Et il a compris qu'il y avait beaucoup à faire et il m'a promis de ne pas rester sans rien faire.
On verra s'il tient parole.
Tout à fait.
Votre livre paru chez AD2, La fin d'un silence, pédophilie, une approche différente. Signé Latifa Benhari. Merci beaucoup Latifa.
Merci Christophe.
De m'avoir fait confiance.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.